Monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, mesdames, messieurs les adjoints et les élus, mesdames, messieurs. Je m'exprime au nom des élus d'opposition du groupe LIS Ensemble. Je vais vous faire quelques commentaires généraux sur ce rapport et aussi, il y a quelques propositions. Certes, on m'a dit que ça ne doit pas être trop technique, il ne faut pas prendre les chiffres, que c'est plutôt de la politique générale. Je veux bien, mais il y a quand même quelques petites choses qui m'intriguent. Donc, le rapport d'orientation budgétaire remplace le DOB suite à la loi dite le nôtre, et ce débat doit, pour la seconde fois, permettre au conseil municipal et à tous les élus de discuter des orientations budgétaires de la commune que vous allez présenter en vue du vote du budget le 29 mars. Nous tenons tout d'abord à remercier le personnel du service finance pour la qualité des documents qui ont été fournis. Là aussi, quand c'est bien, on sait le dire. Alors, première question, vous avez dit en ce qui concerne les personnes aidées à l'Isle-et-la-Noix que cela restait stable. Quand même, on est un peu étonné de cette baisse. Moi, je vois que le chiffre diminue d'année en année. 216 bénéficiaires sur 348 demandes traitées en 2016, contre 248 sur 420 en 2015 et contre 260 sur 510 en 2014. Or, l'Isle-et-la-Noix est loin d'être une ville riche, c'est par les villes de classe moyenne. Bon. Mais comment expliquer cette évolution? Est-ce qu'il y a, l'impression qu'il y a moins de demandes? Ou alors, est-ce qu'il y a une modification des critères d'attribution aux aides? Ce serait ma première question. Alors, sur le contexte budgétaire, évidemment, la baisse de la DGF impacte toutes les communes, pas seulement l'Isle-et-la-Noix, qu'elles soient de droite ou de gauche. Nous l'avons dénoncé également avec une pétition que nous avons signée. Mais il est bien évident que ce n'est pas uniquement cela qui doit déterminer vos choix, vos orientations budgétaires. Il n'y a pas que la DGF, même si on reconnaît que c'est assez complexe. Alors, dans le contexte local, je vous pose une question, c'était à la page 9. Les communes disposant d'au moins 25% de logements sociaux peuvent, si elles le souhaitent, ne pas appliquer les exonérations fiscales. Je vais savoir si l'Isle-et-la-Noix est dans ce cas-là, et si vous êtes dans ce cas-là, quelle est votre position sur ce sujet. Alors, pour le budget proprement dit, vous avez bien dit d'abord la rétrospective. En ce qui concerne les orientations budgétaires de la ville, les recettes de fonctionnement ont légèrement augmenté de 0,09% entre 2015 et 2016, avec prise en compte de la contribution au redressement des finances publiques, d'où la difficulté aussi de comprendre certains tableaux. Puisque pour le tableau, vous avez un tableau où on montre que la DGF passe de 1 615 000 euros à 1 592 000 euros, moins 1,42%. Mais en fait, vous l'avez expliqué, tout dépend de la CRFP. Sur le compte administratif anticipé 2016, 1 592 000 euros, si j'ai bien compris, c'est CRFP inclus. Et par contre, pages 12 et 13, vous mettez 1 336 000, sans la CRFP, c'est-à-dire 1 592 000 moins 256 000. Mais ça fausse quand même, je ne sais pas comment on peut faire, mais ça fausse les comparaisons parce qu'on a l'impression d'une dotation qui est très, très fortement en baisse. Donc là, j'aurais aimé quand même quelques explications très simples. Alors, ensuite, en ce qui concerne, dans cette rétrospective, les dépenses, elles ont augmenté de 3,05%. Certes, vous avez réussi à baisser en 2016 de 0,18% les dépenses de personnel, avec un effectif quasi stable et 9 emplois d'avenir en moins. Mais ce n'est pas facile, on le reconnaît, mais il semble que ce soit passager, puisque vous prévoyez une augmentation de 3,62% en 2017. Donc vous restez avec 58% des dépenses de fonctionnement dans un seuil critique. Le seuil critique, que ce soit droite ou de gauche, on sait que c'est 55%. Et quand on était à 53%, on peut rappeler les invectives à notre égard. Vous avez baissé les charges à caractère général en 2015, 9,8%. Vous prévoyez une baisse de 2,3% pour 2016, mais en fait, elles ont augmenté de 1,79%. Bon, surtout, vous dites, à cause de l'entretien des bâtiments, on y reviendra, et en particulier de la salle Jules Ferry. Mais conséquence de cette situation, c'est notre autofinancement qui est de plus en plus fragile. Vous avez une baisse de 126 000 euros et je voudrais savoir au niveau de l'autofinancement, je sais bien qu'on est un peu dans l'incertitude pour les années à venir, mais comment le voyez-vous à l'avenir? Quant à l'investissement, vous avez affirmé, c'est vrai que la dette communale a baissé, mais vous n'avez levé que la moitié de l'emprunt prévu au budget, soit 600 000 euros sur 1 200 000, donc 600 000 dans les restes à réaliser. Si vous aviez tout levé, vous seriez à 10 000 euros de plus. Bon, et vous avez dit vous-même que dans les années à venir, avec ce que l'on doit construire dans la commune, ce sera pas, on devra recourir de toute façon à l'emprunt, et encore plus que ce qu'on a là. Alors, pour les orientations budgétaires de 2017, la dernière partie, bon, baisse des recettes de fonctionnement. Alors, la DGF s'éleverait à 1 175 000 euros en 2017, c'est-à-dire 1 336 000, mais c'est alors moins 161 000, là je ne vois pas d'où ça vient. D'après les calculs, c'est la moitié de la CRFP, ça devrait être 1 208 000 euros. Enfin, ça c'est peut-être un détail que vous pouvez nous expliquer. Quant à 2018, vous dites en préambule que la réforme de la DGF est renvoyée à un texte spécifique en 2018. Alors comment pouvez-vous justifier une baisse passant de 1 310 000 à 1 175 000 euros? Alors, maintenant j'en viens là aux propositions. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement local, vous avez une proposition concernant les tarifs des prestations municipales, et vous allez créer un groupe de travail sur ce point. Nous sommes entièrement d'accord là-dessus, mais pourquoi mettre dans l'Europe les tarifs des prestations municipales sont susceptibles d'être réévalués sur l'année 2017? Je crois que le groupe de travail doit être libre de ses propositions en fonction de l'examen de dossier. Rien ne dit qu'il faille les augmenter, peut-être qu'on les maintiendra, pas jusqu'à les baisser, mais pourquoi pas. Enfin, disons que c'est un travail qui doit être fait par le groupe. On ne doit pas, me semble-t-il, déjà... bien sûr, vous allez me dire, c'est susceptible, mais enfin, la façon dont c'est indiqué... Donc, j'espère que le groupe de travail, là, pourra vraiment donner son avis et étudier ces tarifs des prestations municipales. Quant au levier fiscal, vous dites que le débat est ouvert quant à la perspective d'une augmentation des taux. Bon, certes, vous allez me dire, ça va être discuté au moment du budget. Nous nous sommes opposés à une augmentation d'impôts l'an dernier et notre position sera la même. Hein, toutes les communes ont les mêmes soucis avec la baisse des dotations, ce qui n'empêche pas certaines d'entre elles de ne pas augmenter, voire même dans certains cas, de baisser les impôts. On parlait tout à l'heure de la taxe d'habitation. Alors, quant aux dépenses de personnel, elles ont augmenté, mais je voulais savoir si vous ne pouvez pas encore les faire baisser davantage, où en êtes-vous au niveau de la mutualisation des services, et vous avez entrepris la mutualisation avec une ville voisine, avec la ville de Lannoy. Qu'est-ce que cela a comme impact, justement, pour faire baisser ces dépenses de personnel? Vous espérez maintenir stables les charges à caractère général ainsi que les autres charges de gestion courante. Et une fois de plus, dans l'Europe, on le voit, ce sont les associations qui vont voir leurs subventions baisser de 3,19%, c'est-à-dire de moins 23 712 euros. Donc là, nous sommes bien sûr opposés à une baisse de subventions aux associations. Vous avez besoin des associations, vous les utilisez, mais vous ne leur rendez pas toujours les services attendus. C'est vous-même, monsieur le premier adjoint, qui affirmez que sans association, la ville ne sera rien. Et je vous rappelle vos promesses électorales, nous garderons les subventions aux associations. Bien sûr, il y a des difficultés financières, bien sûr, mais disons qu'il faut prendre des choix. Hein, gouverner, c'est choisir également au niveau de, disons, de l'orientation budgétaire et du budget, il y a aussi des choix à faire. En termes d'épargne, vous évoquez la nécessité d'emprunter raisonnablement. Qu'est-ce que ça veut dire raisonnablement? C'est mettre 120 000 euros, puis en francs, 600 000. Bon, vous avez évoqué en commission 2 millions d'euros environ, en disant une fourchette haute. Est-ce que ce n'est pas, à ce moment-là, surévalué? Et si vous avez, on a parlé tout à l'heure des taux d'emprunt qui sont très bas, est-ce que ce n'est pas justement le moment de les utiliser et d'investir en donnant des services aux Lissois? Et, alors, pour les subventions, d'équipement, on aimerait avoir des précisions sur les subventions et avoir un tableau des subventions par projet et par organisme, pour savoir, par exemple, telle chose nous a coûté autant, on enlève, bien sûr, les subventions obtenues. Par exemple, pour Jean Chol, vous êtes à 35 000 euros. J'aimerais savoir, là aussi, qu'est-ce que vous avez demandé, qu'est-ce que vous attendez comme autre subvention, de même pour les toitures, là, les 268 000 euros. On sait que la situation n'est plus la même qu'en 2014, mais vous êtes loin des 80% possibles. Hein, là, on peut se demander qu'est-ce que vous espérez obtenir. Et je termine par le PPI. On retrouve au PPI la prévision 2017 de vos dépenses d'investissement, mais vous avez supprimé la ligne sur la construction de l'école maternelle Paul Bert de plus en plus vétuste, que vous avez regroupé, pourquoi pas, avec le projet d'ensemble, cuisine et réfectoire. Mais il y a 1 million d'euros prévus en 2017, au lieu de 1 million 900 000, si on additionne ce que vous avez prévu l'année dernière sur l'école Paul Bert et la cuisine, le réfectoire. Pour l'ensemble, bien sûr, sur 3 ans, vous arrivez à 5 millions d'euros, mais on se demande où est ce projet de l'école pour lequel il y avait un groupe de travail formé, des visites d'écoles maternelles prévues qui ont été annulées. Et est-ce que ce montant prévu va suffire? Parce que là, je crois qu'il y a quand même un énorme problème pour la sécurité des enfants de cette école. Donc, mettre, je dirais, le plus possible avec l'emprunt vers cette école, la même proposition que l'on peut vous faire. Je vous remercie de m'avoir écouté.